Discours sur l'universalité de la langue française. Sujet proposé par l'Académie de Berlin en 1783. Qu'est-ce qui a rendu la langue française universelle? Pourquoi mérite-t-elle cette prérogative? Est-il à présumer qu'elle la conserve? Une telle question, proposée sur la langue latine, aurait flatté l'orgueil des Romains, et leur histoire l'eût consacrée comme une de ces belles époques. Jamais en effet, pareil hommage ne fut rendu à un peuple plus poli par une nation plus éclairée. Le temps semble être venu de dire le monde français, comme autrefois le monde romain. Et la philosophie, lasse de voir les hommes toujours divisés par les intérêts divers de la politique, se réjouit maintenant de les voir d'un bout de la terre à l'autre se former en république sous la domination d'une même langue. Spectacle digne d'elle que cet uniforme et paisible empire des lettres qui s'étend sur la variété des peuples et qui, plus durable et plus fort que l'empire des armes, s'accroît également des fruits de la paix et des ravages de la guerre. Mais cette honorable universalité de la langue française, si bien reconnue et si hautement avouée dans notre Europe, offre pourtant un grand problème. Elle tient à des causes si délicates et si puissantes à la fois que pour les démêler, il s'agit de montrer jusqu'à quel point la position de la France, sa constitution politique, l'influence de son climat, le génie de ses écrivains, le caractère de ses habitants et l'opinion qu'elle a su donner d'elle au reste du monde, jusqu'à quel point, dis-je, tant de causes diverses ont pu se combiner et s'unir pour faire à cette langue une fortune si prodigieuse. Quand les Romains conquirent la Gaule, leur séjour et leurs lois y donnèrent d'abord la prééminence à la langue latine. Et quand les Francs leur succédèrent, la religion chrétienne, qui jetait ses fondements dans ceux de la monarchie, confirma cette prééminence. On parla latin à la cour, dans les cloîtres, dans les tribunaux et dans les écoles, mais les jargons que parlait le peuple corrompirent peu à peu cette latinité et en furent corrompus à leur tour. De ce mélange naquit cette multitude de patois qui vivent encore dans nos provinces. L'un d'eux devait un jour être la langue française. Il serait difficile d'assigner le moment où ces différents dialectes se dégagèrent du celte, du latin et de l'allemand. On voit seulement qu'ils ont dû se disputer la souveraineté dans un royaume que le système féodal avait divisé en tant de petits royaumes. Pour rater notre marche, il suffira de dire que la France, naturellement partagée par la Loire, eut deux patois auxquels on peut rapporter tous les autres, le Picard et le Provençal. Les princes s'exercèrent dans l'un et l'autre, et c'est aussi dans l'un et l'autre que fut d'abord écrit les romans de chevalerie et les petits poèmes du temps. Du côté du Midi florissaient les troubadours, et du côté du Nord, les trouveurs. Ces deux mots, qui au fond n'en sont qu'un, expriment assez bien la physionomie des deux langues. Si le provençal, qui n'a que des sons pleins, eût prévalu, il aurait donné aux Français l'éclat de l'espagnol et de l'italien. Mais le Midi de la France, toujours sans capitale et sans roi, ne put soutenir la concurrence du Nord, et l'influence du patois picard s'accrut avec celle de la couronne. C'est donc le génie clair et méthodique de ce jargon et sa prononciation un peu sourde qui domine aujourd'hui dans la langue française. Mais quoique cette nouvelle langue eût été adoptée par la cour et par la nation, et que, dès l'an 1260, un auteur italien lui ait trouvé assez de charme pour la préférer à la sienne, cependant l'Église, l'université et les parlements la repoussèrent encore. Et ce ne fut que dans le XVIe siècle qu'on lui accorda solennellement les honneurs dus à une langue légitimée.